Chapitre 6. Sextus Empiricus. Sceptique et métasceptique. Pas plus ceci que cela. Il serait dommage de quitter l'Antiquité sans nous arrêter un moment sur les sceptiques. Ils le méritent, même s'ils sont agaçants, ou justement parce qu'ils le sont. Pour une fois, l'usage moderne du terme ne trahit pas tout à fait l'ancien. Les sceptiques doutent. Mais le doute des anciens est plus radical que celui que nous exprimons aujourd'hui, sourcils levés, en disant « je suis sceptique ». Cela pourrait être ma réponse à un élève m'assurant que sa dissertation, dûment écrite en temps et en heure, a été malencontreusement mangée par son chien le matin même où il fallait la rendre, comme par hasard. Un sceptique de l'Antiquité considérerait qu'il faut suspendre son jugement, ne pas juger que cela est vrai, mais ne pas juger non plus que cela est faux. Plus encore, les véritables sceptiques estimeront qu'il ne faut pas juger l'une des deux branches de l'alternative comme plus plausible que l'autre. Un point central de ce scepticisme radical est en effet l'idée qu'à toute thèse s'oppose une thèse également plausible, forçant ainsi la suspension de notre jugement. Les gens chics parleront ici d'époké, ce qui veut dire interruption en grec, et désigne spécifiquement cette suspension du jugement ou de l'assentiment chez les sceptiques. Pour ma part, tout en disant que je suis sceptique face à cette histoire de chien dévoreur de copies, je ne crains pas d'affirmer qu'il y a nettement plus de chances qu'elle soit fausse que vraie, et je ne vois aucun problème à laisser mon jugement pencher de ce côté-là et déclarer sans embâge à mon élève qu'il n'y aura pas de délai supplémentaire pour sa dissertation. En somme, je ne suis pas si sceptique que cela, et surtout pas du tout à la mode ancienne. Je veux bien admettre qu'il reste un peu d'incertitude, mais guère plus. De la même façon, le mouvement contemporain du scepticisme scientifique, ou de la zététique dans le monde francophone, se dit sceptique en un sens tout à fait différent du scepticisme de l'Antiquité. Ces sceptiques modernes ont, vis-à-vis des pseudosciences et des charlataneries en tout genre, le même doute tranchant que moi vis-à-vis de mon élève. En fin de compte, s'ils doutent de ces âneries, ils ne doutent guère d'avoir raison de les tenir pour des âneries. Et ce n'est pas une critique, je pense qu'ils sont tout à fait justifiés. En fait, dans l'usage moderne, le scepticisme serait une position selon laquelle il faut tout soumettre à l'épreuve du doute, certes, mais au terme de cette épreuve, certaines thèses auront mieux résisté que d'autres, si bien qu'en fin de compte, on ne doutera pas également de tout. Et ce dont il y a suffisamment peu de raisons de douter pourra parfaitement être considéré comme une connaissance solide. On l'admettra avec un léger degré d'incertitude tout au plus, car le doute reste toujours possible, mais on l'admettra tout de même. Ainsi, ce que rejette ce scepticisme, ce n'est pas la connaissance, mais le préjugé et la certitude. Et c'est pourquoi ce genre de scepticisme est tout à fait soluble dans la démarche scientifique et lui est même essentiel. Si les résultats des sciences nous amènent à considérer que P est incomparablement plus probable que non-P, il n'y a pas lieu de suspendre son jugement, nous aurons de bonnes raisons de tenir P pour vrai, ou plutôt très probablement vrai. Et c'est ainsi que l'on peut être sceptique et tout à fait péremptoire dans ses opinions. Cette forme de scepticisme probabiliste existait déjà dans l'Antiquité. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe Carnéade prend la tête de la Nouvelle Académie, héritière de l'école fondée par Platon 2 siècles plus tôt. Cette école avait justement pris une direction sceptique. Cette direction était très éloignée de la pensée de son fondateur et c'est pourquoi l'on parle de « nouvelle académie » pour ne pas la confondre avec celle de Platon. Les nouveaux académiciens se réclamaient plutôt de l'héritage de Socrate, chez qui, en effet, une forme de scepticisme semblait à l'œuvre dans ses dialogues qui aboutissaient plus souvent à la reconnaissance d'une ignorance qu'à l'établissement d'une connaissance. Et, sous l'influence de Carnéade, ce scepticisme académique tend à se modérer pour prendre une forme probabiliste. La certitude est impossible, certes, mais certaines choses sont plus probables que d'autres. Tout cela paraissait bien tiède aux véritables sceptiques qui s'opposaient à ce probabilisme timoré. Pour eux, le scepticisme consiste à soutenir non pas l'impossibilité de la certitude tout en admettant des probabilités, mais bien l'impossibilité de toute connaissance même probable, l'impossibilité de justifier même le plus faiblement quelque croyance que ce soit. Entre deux options, il faudrait toujours non seulement suspendre son jugement, mais ne pas même en reconnaître une comme plus probable que l'autre. Pas plus ceci que cela est la maxime fondamentale du scepticisme. Pour ces véritables sceptiques, il s'agit d'arriver à un état d'indifférence face à toute chose, un état d'incompréhension absolue que les Grecs nommaient akatalepsie. Ce mot délicieux mériterait d'être plus souvent employé. Dans cet état acataleptique, l'âme, n'étant troublée par aucun jugement, serait parfaitement tranquille, et ce serait ainsi un moyen d'atteindre l'ataraxie, l'absence de trouble si chère aux philosophes de l'Antiquité. Car oui, le scepticisme a lui aussi une visée pratique. Mais qui sont ces vrais sceptiques? Le premier d'entre eux est Pyrrhon d'Élice, qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les sceptiques sont quelquefois appelés des pyrrhoniens pour cette raison. Les sources au sujet de Pyrrhon sont rares et souvent contradictoires. Il n'a rien écrit, vous aurez remarqué que c'est à cela qu'on reconnaît les philosophes badass, Socrate, Diogène, Épictète, et beaucoup de témoignages sur sa vie semblent assez fantaisistes. Indifférent à toute chose, il marcherait droit devant lui sans se soucier d'éviter obstacles, chariots, ravins, tandis que ses disciples, moins sceptiques que lui, préviendraient les accidents à sa place. Je cite Diogène Laërce. Sa conduite était d'accord avec sa doctrine. Il ne se détournait, ne se dérangeait pour rien. Il suivait sa route, quelque chose qui se rencontra, chariot, précipice, chien, etc. Car il n'accordait aucune confiance au sens. Heureusement, dit Antigonus de Cariste, ses amis l'accompagnaient partout et l'arrachaient au danger. L'anecdote, comme souvent, semble surtout contribuer à forger une légende. En fin de compte, il est difficile de savoir ce que le scepticisme pyrrhonien doit exactement à cet étrange Pyrrhon. Toujours est-il que, dans les siècles qui suivirent, de nombreux auteurs se réclamèrent de cette influence, le plus important d'entre eux étant un auteur qui a vécu autour de l'an 200, soit plus de 5 siècles plus tard, Sextus Empiricus. C'est dans ses écrits que l'on peut apprécier les subtilités de raisonnement dont les sceptiques faisaient preuve pour mettre à mal le dogmatisme de leurs adversaires. Dogmatique est un qualificatif que les sceptiques attribuaient à tout autre qu'eux. Vous êtes dogmatique dès lors que vous donnez votre assentiment, même le plus faible, à quelque thèse que ce soit. Donc si vous vous estimez justifié à croire que la Terre est ronde ou qu'elle ne l'est pas, ou si vous avez seulement une préférence pour l'une ou l'autre de ces thèses, vous êtes déjà dogmatique aux yeux d'un sceptique qui se fera un plaisir de vous montrer en quoi votre justification et votre prétention à la connaissance, quelle qu'elle soit, sont intenables. Et ne vous y trompez pas, les arguments sceptiques sont, sinon convaincants, en tout cas bien embarrassants. Certains sont même encore aujourd'hui au cœur de nombreuses discussions en épistémologie, c'est-à-dire la partie de la philosophie qui se penche sur la notion de connaissance. Je pense notamment au célèbre trilemme d'Agrippa, parfois aussi appelé trilemme de Münchhausen, en référence au baron du même nom qui se serait soulevé lui-même par les cheveux pour se tirer d'un marais. Mais je préfère le désigner en référence à Agrippa, philosophe sceptique du 1er siècle dont les arguments ont été transmis par Sextus Empiricus. Pour être tout à fait exact, le trilemme n'existe pas tel quel dans le texte de Sextus Empiricus, c'est une reconstruction contemporaine qui se rattache au problème de la régression épistémique. Mais Agrippa n'était pas loin de l'avoir formulé. Si un dilemme a 2 branches, un trilemme en a 3. Et celui d'Agrippa, dans sa formulation contemporaine, se présente en gros ainsi. Pour qu'une certaine proposition A soit considérée comme une connaissance, il faut pouvoir la justifier, sans quoi ce n'est qu'un préjugé, fût-il vrai. La justification résidera dans un argument partant d'un certain nombre de prémices et concluant la proposition A. Prenons le cas le plus simple et disons que A est justifié par un argument dont la seule prémisse est la proposition B. Nous nous demandons, B doit-il être considéré comme une connaissance? Il semble difficile de le nier. Si B n'est pas une connaissance, comment cela pourrait-il servir de prémisse à la justification de la connaissance de A? Donc B doit être une connaissance. Mais alors, il faut que cette connaissance soit justifiée par un argument partant de certaines prémices, disons de la prémisse C, qui doit elle-même être une connaissance, justifiée par un argument partant d'une prémisse, disons D, qui doit être une connaissance, etc. Ainsi, les justifications de nos connaissances forment des chaînes. A est justifié par B, qui est justifié par C, etc. Et le trilemme d'Agrippa consiste à faire remarquer que ces chaînes ne peuvent avoir que 3 structures. 1. Soit elles se prolongent à l'infini. 2. Soit elles forment une boucle. 3. Soit elles s'arrêtent sur des propositions non justifiées. Et il semble que nous ne puissions établir de connaissance dans aucun de ces cas. 1. Régression à l'infini. La justification ne s'achèvera jamais et nous n'aurons donc jamais pu justifier notre proposition de départ. 2. Dialèle. La justification forme ce que les sceptiques appelaient un dialèle, c'est-à-dire un cercle dans le raisonnement ou une pétition de principe. Pour justifier une certaine proposition, nous avons fini par présenter un argument dont cette proposition est une prémisse. Cela paraît aussi désespéré que de se soulever soi-même par les cheveux, comme le baron de Münchhausen. 3. Arrêt dogmatique. En l'absence de justification, la proposition sur laquelle nous nous arrêtons ne devrait pas être tenue pour une connaissance et toutes les propositions qui suivent dans la chaîne de justification ne devraient pas non plus être tenues pour des connaissances. Voilà qui est fort embarrassant. De fait, les épistémologues contemporains n'ont pas d'autre choix que d'accepter l'une des trois branches du trilemme et montrer en quoi elle permet tout de même de fonder la connaissance. Chaque branche du trilemme correspond ainsi à un certain type d'épistémologie. La troisième, l'arrêt dogmatique, correspond au fondationalisme, qui est l'approche la plus courante. La deuxième, le dialèle, correspond au cohérentisme, approche plus marginale. La première, régression à l'infini, correspond à l'infinitisme qui n'est défendu que par une toute petite poignée d'auteurs dont je me demande s'ils ne sont pas avant tout motivés par l'opportunité d'occuper une case vide et d'être souvent cités pour cela. Mais si l'on ne rejette aucune branche du trilemme, alors il semble qu'il faille conclure que la connaissance n'est tout simplement pas possible. Mais n'est-ce pas contradictoire? Au moment où je dis que la connaissance n'est pas possible, ne suis-je pas en train d'affirmer cela comme une connaissance? Est-ce bien sceptique que d'argumenter pour le scepticisme? Ma présentation du trilemme d'Agrippa n'est pas tout à fait celle qu'en donnerait un véritable sceptique. Il serait sans doute plus juste de présenter son argument de façon purement interrogative, comme une série de questions que l'on poserait à toute personne prétendant détenir une connaissance A. A doit-il être justifié pour être une connaissance? Oui. Qu'est-ce qui te justifie à croire A? Je crois A parce que B. B doit-il être une connaissance pour justifier ta connaissance de A? Oui, etc. Ces questions peuvent nous amener à suspendre notre jugement sur A ou, plus généralement, sur la possibilité de la connaissance, mais un véritable sceptique ne l'affirmerait jamais comme tel. Le sceptique ne doit rien affirmer, rien établir, pas même son doute. La formule sceptique par excellence, pas plus ceci que cela, autrement dit, à toute thèse, on peut opposer une thèse de force égale, ne peut pas être affirmée de façon cohérente. Le sceptique doit plutôt reconnaître que l'on peut, à cette thèse aussi, opposer une thèse de force égale. Ainsi, pas plus ceci que cela, que plus ceci que cela. Et ainsi de suite. Autrement dit, un sceptique pleinement cohérent devrait être sceptique quant à son propre scepticisme. Il doutera de son doute, comme il doute de toute autre chose. Et il va de soi qu'il doutera aussi de son doute sur son doute, et de son doute sur son doute sur son doute, etc. Le sceptique doit être aussi méta-sceptique, et méta-méta-sceptique, et méta-méta-méta-sceptique, etc. Cette dimension récursive du scepticisme, qui doute de son propre doute, est particulièrement bien illustré par ce passage de Sextus Empiricus sur la question de savoir s'il y a un critère de vérité. Spoiler, il faut suspendre son jugement. Sextus Empiricus écrit « Parmi ceux qui ont consacré une étude aux critères de vérité, les uns ont soutenu qu'il y en a un, comme les stoïciens et certains autres, d'autres qu'il n'y en a pas. Mais s'il y en a ou s'il n'y en a pas, sur ce point, nous suspendons notre assentiment. » Or, ils diront que ce désaccord est soit décidable, soit indécidable. S'il est indécidable, il sera immédiatement accordé qu'il faut suspendre son assentiment. Mais s'il est décidable, qu'ils disent par quoi la décision sera faite, alors que nous n'avons pas de critère sur lequel nous soyons d'accord, ni ne savons d'une manière générale si un tel critère existe, mais que nous le recherchons. Par ailleurs, pour que le désaccord qui existe sur le critère fasse l'objet d'une décision, il faut que nous ayons un critère sur lequel nous soyons d'accord, par lequel nous pourrons prendre une décision sur ce désaccord. Et pour que nous ayons un critère sur lequel nous soyons d'accord, il faut d'abord que le désaccord sur le critère ait fait l'objet d'une décision. Ainsi, l'argument tombe-t-il dans le dialèle, puisque nous ne leur accordons pas de prendre un critère par hypothèse, et dans le cas où ils voudraient arriver à une décision sur le critère par un autre critère, nous les renvoyons à la régression à l'infini. Sextus Empiricus, esquisse pyrrhonienne. Vous aurez remarqué que la fin de ce passage présente allusivement deux branches du trilemme d'Agrippa, et il serait aisé d'y ajouter la troisième en posant le problème de la façon suivante. Si la question « Y a-t-il un critère de vérité ?» est décidable, alors ou bien le critère permettant de décider cette question est précisément celui au sujet duquel la question est posée, et l'on tombe alors dans un dialèle, un cercle, ou bien nous utilisons un critère distinct, spécifique à cette question sur le critère, une sorte de métacritère donc, mais il faudrait encore traiter la question « Y a-t-il un métacritère de vérité ?» ce qui appellerait un méta-méta-critère, et ainsi de suite, d'où une régression à l'infini. Ou bien enfin, poser dogmatiquement un critère de vérité, mais alors rien ne justifierait ce critère. Cette dernière option n'est pas envisagée par le passage, mais cela semble tout à fait dans l'esprit et cela permet de faire un beau trilemme d'Agrippa dans les règles de l'art. Notez bien qu'en fin de compte, Sextus Empiricus ne conclut pas positivement qu'il n'y a pas de critère de vérité, seulement qu'il faut suspendre son assentiment, c'est-à-dire suspendre son jugement sur cette question, et le suspendre de même sur la question de savoir si cette question est décidable par un critère de vérité. Et sans doute faudrait-il encore le suspendre sur la question de savoir si la question de savoir si cette question est décidable par un critère de vérité est décidable par un critère de vérité, etc. Vous suivez ? Les sceptiques sont embarrassants. Nous ne voulons pas adopter leur position radicale, mais il est difficile de s'extirper des dialèles et régressions à l'infini où ils nous embarquent dès lors que nous affirmons une connaissance même seulement probable. Peut-être avons-nous tort, après tout. À trop y réfléchir, je me sens gagné par la catalepsie. Quelques livres pour aller plus loin. Carlos Lévy, Les scepticismes, PUF, collection Que sais-je, 2018. Ce bref ouvrage offre un tour d'horizon des multiples traditions se réclamant du scepticisme, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on y croise notamment Montaigne, Hume et Russell, et témoigne de la plasticité de cette approche philosophique qui se laisse adapter à toute époque et à toute circonstance. Anthony Long et David Sedley, Les philosophes hellénistiques, Flammarion, collection GF, 2001. Ces trois volumes, plutôt savants certes, mais qui restent accessibles à un lecteur motivé, sont des guides précieux pour se confronter aux textes des grandes philosophies de la période hellénistique et en particulier à ceux du ou plutôt des scepticismes. Il réunit, ordonne et commente un grand nombre de sources qui seraient autrement difficiles d'accès. Cette anthologie, qui couvre aussi l'épicurisme et le stoïcisme, s'ouvre et se referme sur une étude approfondie du scepticisme. Le pyrrhonisme de Pyrrhon est traité au début du premier volume, et le troisième volume est entièrement consacré au scepticisme de la Nouvelle Académie et au renouveau du pyrrhonisme dont témoigne Sextus Empiricus.